La région et les départements d'Occitanie ont unanimement appelé à la solidarité avec l'Ukraine. Une prière internationale pour la paix se tient tous les soirs à 18h30 à la cité mariale. Et puis, la ville de Toulouse est jumelée depuis 47 ans à Kiev, capitale de l'Ukraine. Afin de nous guider dans la compréhension de ce conflit, le père Bogdan Velianik, curé de la basilique Saint-Sernin, est à nos côtés. Bonjour père.
Bonjour.
Vous avez passé les 18 premières années de votre vie en Ukraine. Une partie de votre famille et de vos amis réside encore actuellement, vous me le disiez, sur la partie ouest du pays. Vous allez donc nous éclairer sur la situation actuelle. L'Ukraine a une superficie de 603 548 km², 8 fois celle de notre région. L'Ukraine est un pays doté de nombreuses richesses naturelles. Est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement, père Bogdan, votre pays natal?
Eh bien, c'est un pays qui est surtout peuplé par des gens qui aiment bien leur terre, qui aiment cultiver, qui aiment tout simplement vivre tranquille et qu'on leur laisse vivre tranquille dans leur pays.
L'histoire politique de l'Ukraine avec la Russie est depuis toujours compliquée. À votre avis, quelles en sont les raisons?
C'est compliqué, comme vous dites, puisque l'histoire est compliquée. Nous avons eu un grand oral d'historien Poutine qui expliquait en quoi l'Ukraine n'a pas droit d'exister. Bien sûr, on connaît le proverbe que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et hélas, les relations avec la Russie n'ont pas été toujours au beau fixe. Disons que l'Ukraine était toujours en train d'être divisée entre les puissances qui l'entouraient, soit les Polonais, soit les Lituaniens, soit les Russes. La Russie, d'ailleurs, qui essaie de pervertir un peu l'histoire, puisque l'histoire ukrainienne, l'histoire de Russie de Kiev, ou Russe de Kiev, n'a rien à voir avec le mot « la Russie ». Moscou n'existe pas à cette époque-là, pendant que Vladimir le Grand baptise tout son peuple, et le christianisme devient la foi de l'État de Russe de Kiev. Moscou, de XIIIe siècle, n'est pas encore dans les plans même. Mais après, il est clair que les Ukrainiens feront une erreur monumentale en s'associant avec les Russes au XVIe siècle pour combattre les Polonais et les Tartares. Et cet accord, qui est toujours vu par les Russes comme l'accord des réunifications, en fait, au bout du compte, était un protectorat qui promettait aux Ukrainiens le protectorat de la part du tsar, tout en gardant leur autonomie et leur souveraineté, ce qui n'a jamais été respecté. Puis, on connaît la suite, on connaît la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout on connaît l'invasion bolchevique, l'invasion soviétique, qui a complètement décimé les populations ukrainiennes. Donc, vous me demandiez quelles étaient mes premières années de la vie en Ukraine, même en étant petit. Et en étant à l'école, où toute la propagande bolchevique était en place, on croyait sincèrement que le camarade Lénine, ce terroriste dictateur, était un grand ami de tous les peuples. On croyait sincèrement que Staline, c'était un grand héros de la guerre, alors que c'était vraiment presque le Satan incarné, oui, en décimant peut-être plus que Hitler a réussi à faire, puisqu'il a eu plus de temps. Donc voilà l'histoire compliquée. Et aujourd'hui, avec ce peuple qui est réunifié, il est clair qu'ils souhaitent avoir leur pays, qu'ils souhaitent avoir leur liberté. Et ayant goûté à cette liberté, je ne pense pas qu'ils sont prêts à la rendre.
À votre avis, pourquoi l'Ukraine est dans cette situation aujourd'hui?
C'est encore une question compliquée, oui, n'est-ce pas? Comme je vous ai décrit, l'histoire, oui, est compliquée. L'histoire est toujours tumultueuse pour les Ukrainiens qui avait toujours ce tiraillement, pas tiraillement, mais qui était en fait à l'avant-poste de l'Europe. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont essuyé pendant des siècles des attaques des hordes venues des steppes de l'Asie, des Turcs, des Tartares, de Crimée, et ainsi de suite. Effectivement, l'Europe en quelque sorte avait un tampon bienvenu qui était l'Ukraine. Puis, dans l'histoire récente, si je peux dire, c'était la question plutôt de choix européen des Ukrainiens. Ils ont clairement affirmé ce qu'ils voulaient. Et l'Europe les a soutenus. Le problème, c'est que, comme disait le président Zelensky récemment, c'est depuis une dizaine ou vingtaine d'années qu'ils sont restés aux portes ouvertes, mais finalement, on ne leur a pas permis de rentrer. Mmh. Alors, c'était trop tentant pour la Russie de vouloir regagner leur sphère d'influence, surtout voyant que les Européens finalement étaient assez hésitants à donner une claire vision pour la perspective de ce pays, de ce peuple.
Pourrait-on dire que la Russie s'est sentie trahie justement par cette porte ouverte de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine ?
Trahie ? Non, je ne pense pas. La Russie, de toute façon, durant des siècles, ils n'ont jamais compris que personne ne leur en veut, à part Hitler. Mais n'oublions pas que les Russes et les Allemands se sont partagés la Pologne. Aujourd'hui, nous assistons à la même chose. La question des Biélorussiens et des Russes qui veulent se partager un pays voisin. Mais les Russes, ils ne sont pas en danger. Personne n'a envie d'attaquer les Russes. On les aime, on les estime, et on aimerait bien qu'ils apprennent à vivre en paix et qu'ils ne propagent pas ce chauvinisme qui finalement prétend que la moitié de l'Europe, sinon la totalité, est plutôt russe.
Vous disiez, Père Bogdan, que l'Ukraine était à la jonction, en fait, de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Est-ce que, d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'elle est victime de ces relations entre l'Est et l'Ouest ?
Victime de fait, elle est. Maintenant, est-ce qu'elle est victime de ces relations ? Je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas historien, je ne suis pas nécessairement un critique bien aiguisé dans la politique. Mais je ne peux que vous donner mon sentiment.
Bien sûr. Le paysage religieux de l'Ukraine est lui aussi compliqué, puisque la population chrétienne orthodoxe majoritaire est divisée entre une église indépendante basée à Kiev et une branche autonome liée au patriarche de Moscou. Le président Poutine a justifié l'invasion de l'Ukraine dans son discours du 21 février en disant « À Kiev, il prépare des représailles contre l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou ». Vous y croyez ?
Absolument pas. Encore une question compliquée. L'Ukraine, jusqu'aux années, je pense, 2000, avait un paysage très hétéroclite du point de vue même de l'orthodoxie. Il faut savoir que l'Église catholique de rite latin est présente et très motivée dans son travail pastoral, surtout dans les territoires de l'Est. Puis il y a, depuis le XVIIe siècle, l'Église grecque-catholique, unie à Rome, qui représente une offense, entre guillemets, aux yeux de Moscou, puisque c'est une aberration à leurs yeux qu'existe une église byzantine liée à Rome. Et puis les églises orthodoxes elles-mêmes étaient l'une des patriarcats de Kiev, qui se sont séparés des patriarcats de Moscou. Puis il y avait aussi l'église autocéphale, qui ne reconnaissait personne, et finalement le patriarcat de Moscou. Nota bene, il faut savoir que 75% des paroisses du patriarcat de Moscou se situent dans les territoires ukrainiens. Donc effectivement, il y a un intérêt, pas uniquement pastoral, mais aussi économique pour tous ces gens-là. Récemment, le patriarche Bartholomé a donné à l'Ukraine, à l'église ukrainienne orthodoxe, l'autonomie, en reconnaissant leur métropole indépendante de Moscou. D'ailleurs, la métropole de Moscou, qui, elle, était plutôt un passage forcé de métropolité de Kiev vers Moscou, et après la proclamation autoproclamée de leur patriarcat, qui pendant 100 ans était reconnu par personne. Donc, pour parler des territoires canoniques, on y repassera. Ceci étant, pour la Russie, c'est un danger. C'est un danger évident.
Cette autonomie
de l'Église est un danger évident, surtout que depuis 2014, quand l'Église orthodoxe de patriarcat de Moscou s'est mise à soutenir ouvertement l'invasion russe, effectivement, le peuple a vu le vrai visage de cette Église. Ils ont compris qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils ne sont pas vraiment ceux qui sont censés les guider de brebis, que c'était plutôt des agents et ceux qui mènent la propagande d'une certaine vision de la religion du monde et au profit de la Russie. Donc aujourd'hui, pour les Ukrainiens, l'unité de l'Église était une question importante, ce qui a permis la réunification en fait de toutes les branches qui ont abandonné leur autonomie en se réunissant à une seule Église ukrainienne orthodoxe, indépendante de Moscou et en lien avec le patriarche Bartholomée. Alors effectivement, c'était une quelque sorte une insulte à l'orthodoxie moscovite vue depuis Moscou.
Depuis Moscou. Vous parliez de l'église gréco-catholique ukrainienne. Je signale à nos auditeurs qu'elle est présente à Lourdes et c'est justement son curé, le père Romagnou, qui anime cette prière du chapelet à la Cité Mariale tous les soirs. Les églises de toute confession ont invité à la prière, à l'hospitalité envers les réfugiés, au développement de l'aide humanitaire. Comment les Ukrainiens perçoivent-ils toutes ces initiatives ?
D'abord, je dois excuser le père Romagnouk, c'est lui qui devait être aujourd'hui ici. Et je pense qu'il serait plus à même à dire toutes les choses sur l'Ukraine, puisque, comme je vous disais, j'ai quitté l'Ukraine il y a 18 ans, et c'est vrai que toute mon activité pastorale était plutôt en France, en tant que prêtre de l'Église de France.
Mais vous gardez les liens, quand même.
Ceci étant, on garde les liens. Je ne cesse d'appeler mes amis, ma mère, qui prie jour et nuit. En fait, ce qui est étonnant de voir que la plus efficace des protections de ce peuple, c'est la prière constante. Les églises ne se ferment pas. Les messes sont célébrées jour et nuit. Les armées sont invitées à la prière. En fait, c'est comme si c'était une neuvaine constante pour la libération, pour la protection. Espérons que le Seigneur nous entende.
Espérons, effectivement. Sur quoi, à votre avis, résident les espoirs de paix ?
Les espoirs de paix. Il y a une seule manière que la paix, vraiment la paix, revienne. C'est que le peuple russe se réveille et que eux-mêmes fassent tomber Poutine. Ça, c'est la seule manière de rétablir la paix entre les populations, entre les peuples. Puisque les Ukrainiens ne haïssent pas les Russes. Il y avait beaucoup d'apaisement durant ces dernières décennies. Les gens s'est mariés les uns avec les autres. Certainement, si on va dans un village, on trouvera des cousins éloignés ou proches, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a la volonté d'un petit groupe de personnes qui dirigent cet énorme pays, qui les lobotomise. Je suis en train parfois de lire les nouvelles russes. Et c'est hallucinant.
On est encore dans la propagande.
C'est-à-dire que c'est un mensonge pur. Ils vous présentent que finalement la Russie est soutenue sur la scène internationale par la Birmanie, comme l'exemple. Il faut vraiment tomber bas pour pouvoir prétendre une chose pareille. En tout cas, pour la paix, il y a une seule solution, c'est que vraiment les Russes confirment que ce n'est pas leur guerre, qu'ils n'ont pas voulu. Et cela permettra apaisement et peut-être éviter la haine qui s'installe dans les cœurs.
Mmh. Ils le manifestent, pourtant il y a quand même un certain nombre de mouvements de manifestation en Russie, malheureusement réprimés. Hein,
Ils ont peur, c'est normal.
Ils ont peur. Oui.
Ils ont peur.
Oui.
Mais les Ukrainiens ont aussi peur. Et pourtant, ils sortent sans armes parfois, avec toute leur ville ou tout leur village, en barricadant les routes aux chars de l'armée russe. Certains font demi-tour, d'autres les écrasent et tirent dessus sur les populations civiles. Donc c'est la réalité aujourd'hui. On ne peut plus avoir peur.
Merci beaucoup, Père Bogdan Velianik, de nous avoir éclairé sur le conflit en Ukraine ce matin.
Je vous en prie.